Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Rising Voices. Je suis Safa Charafi, fellow chez Itinera, un think tank dédié aux questions sociales et économiques. Et dans ce podcast, on met en lumière des entrepreneurs qui sont souvent sous-représentés. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une entrepreneuse inspirante. Dans cet épisode, on va se plonger dans le parcours exceptionnel de Yasmine, découvrir les défis qu'elle a surmontés en tant qu'entrepreneuse femme, ainsi que son engagement à créer un impact positif dans le domaine de la santé. Après près de 8 ans d'expérience en tant que coach sportive, sa passion pour un mode de vie sain a été intensifiée par son propre cheminement. Elle a vécu un burn-out en tant qu'analyste financière et Yasmine a réalisé l'importance vitale d'une approche holistique de la santé. Et c'est ainsi qu'elle a créé Ayana, une entreprise qui accompagne ses clients dans leur développement mental et physique, qui a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de santé globale et de dévoiler le potentiel que nous possédons pour nous épanouir. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des idées stimulantes alors que nous nous plongeons dans cette conversation chaleureuse avec Yasmine Alji. Bonjour et bienvenue Yasmine.
Bonjour, bonjour à toi, merci. Souvent c'est moi qui pitch donc ma boîte, etc. Et ça fait bizarre d'entendre quelqu'un le présenter comme ça. En tout cas, tu l'as très bien fait, mais ça m'a un peu ému.
Tu peux encore te présenter, enfin si tu peux nous en dire un peu plus sur toi-même, sur ton parcours professionnel en tant que fondatrice d'Ayana et comment tu es arrivée à te passionner pour le bien-être physique et mental.
Bah, comme tu l'as si bien dit, le parcours a commencé suite à un burn-out. Donc moi, j'étais analyste financière il y a quelques années de ça. Mon burn-out, la façon de m'en sortir, ça a été par le sport, par l'alimentation, parce que j'avais pas mal de problèmes de santé que j'ai traîné depuis adolescente. Et le fait de reprendre le sport, il fallait que je me centre vraiment sur comment est-ce que je vais me nourrir, etc. J'essayais d'optimiser vraiment mon alimentation. Le mot optimiser, c'est un mot que j'utilise beaucoup, parce que c'est limite une façon de fonctionner pour moi. En fait, j'ai besoin de toujours tout optimiser. C'est un toc limite. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et avec le temps, j'ai été de plus en plus captivée et fascinée par le corps humain. De base, moi, je voulais faire des études de médecine. Hein. Donc, depuis toute jeune, je rêvais d'être médecin. La vie a fait que ce n'était pas possible parce que, étant une femme, je pouvais être infirmière, sage-femme, aide-soignante, mais pas médecin, selon mon père. donc j'ai dû renoncer à ce rêve que mon petit frère, cela dit, a accompli quand même pour toute la famille, puisqu'il est aujourd'hui médecin. Je suis super fière de lui. Et donc j'ai un petit peu renoué avec cette passion pour le corps humain, parce que c'est juste extraordinaire. La source de capacité et de potentiel qu'on a entre notre corps et notre cerveau et tout ce qu'on pourrait faire avec, c'est illimité, on ne s'en rend même pas compte. Mais on est tellement dans ce train de vie et dans cette société, on est bridé, conditionné. Allez, je ne vais pas rentrer dans des théories de complot, je ne suis pas du tout là-dedans, mais on est vraiment brainwashé en fait au jour le jour par la télé, par les pubs, par aujourd'hui les réseaux sociaux. Et puis par aussi les mentalités. Donc ça m'a été un petit peu un déclic pour moi. Ça fait d'ailleurs facile 15 ans que je ne regarde plus la télé, en tout cas la télé normale. Donc ça c'est un choix que j'ai fait dès que j'ai fait mes études de marketing, parce que j'ai compris qu'on nous manipulait de ouf, qu'on utilisait les pulsations, les fréquences, les couleurs, la durée de chaque image, enfin tout ça est calculé, millimétré pour nous manipuler. Je me suis dit ok, non, ça va pas, on a déjà trop essayé de contrôler ma vie, donc là je reprends le contrôle déjà par ça. Et donc ouais, j'ai abandonné la télé il y a très très longtemps, quoi. Et voilà, donc ça, j'ai renoué avec ça et c'était juste extraordinaire de voir, de comprendre comment le corps humain fonctionne. Et après toutes ces années, je sais que je découvre tous les jours quelque chose, c'est juste passionnant, donc ça c'est un peu moi.
Et tu avais aussi mentionné avoir vécu un burn-out en tant qu'analyste financière. Est-ce que tu peux nous un peu plus sur cette expérience, comment est-ce qu'elle a influencé ta vision du bien-être global et aussi ta décision de créer Ayana.
Oui, alors le burn-out a été un élément déclencheur. Il faut savoir que le burn-out, ce n'est pas toujours lié qu'au travail, parce que les gens pensent beaucoup que c'est dû au travail, mais en fait, c'est une accumulation de choses, et c'est ton système nerveux qui, à un moment donné, pète un câble, et il n'en peut plus. Et dans mon cas, 25 ans, 24 ans, c'est tôt pour avoir un burn-out, selon certains. Mais voilà, moi, j'ai eu une vie assez compliquée depuis mes 10 ans. En fait, je suis devenue adulte à 10 ans, et j'ai porté des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Et donc, j'étais mise à l'épreuve depuis déjà 15 ans à ce moment-là. Et donc, j'en pouvais déjà plus. En tant que femme, aussi, dans le milieu du travail, dans le milieu des finances, c'est très compliqué. C'est vraiment un monde d'hommes où la femme, elle peut avoir toutes les idées, tous les trucs que tu veux, et les crédits, elle ne l'a presque jamais. Ou du moins à l'époque où moi j'y étais. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je suis déconnectée de ce monde-là, et Dieu merci. Mais voilà, j'avais un manager qui était très, qui était un peu abusif quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu rajoutes à ça de l'harcèlement parce que voilà, tu refuses des avances et donc tu deviens l'ennemi numéro un. Et c'était vraiment l'élément déclencheur. Mais c'était pas dû à la charge de travail, c'était aussi dû à tout ce que j'ai accumulé auparavant. Et donc ça, c'est un épuisement nerveux et ton corps somatise. En fait, notre corps somatise énormément. Donc je suis arrivée à un stade où je mangeais plus, je buvais plus, je dormais plus. Et mon corps, il était à l'arrêt total. Donc il a juste buggé. J'étais en mode erreur 404. Donc j'avais plus aucun contrôle, je ne pouvais plus rien faire avec mon corps. Et là, c'était une grosse claque, parce qu'il a fallu que je me remette en question. Là, tout a commencé parce que, en fait, il faut arrêter de se positionner comme victime aussi quand on subit des choses, parce qu'on se laisse subir aussi, on accepte. Et on apprend aux gens comment ils nous traitent. Et moi, j'ai accepté certaines choses parce que je n'avais pas de valeur de moi-même aussi. J'ai grandi avec, voilà, dans un environnement qui me rabaissait, qui faisait que je n'avais pas de valeur pour moi-même, ni d'estime. Et ce qui fait que j'acceptais tout. Et donc, j'étais un peu une people pleaser. Tu vois, j'avais besoin d'être validée par les autres pour me sentir bien. Et pas validée au niveau apparence ou quoi, c'est juste au niveau comportement et émotionnel. Donc, j'avais l'impression que je méritais pas d'être aimée si je ne souffrais pas pour, et que si je ne suais pas pour. Et donc, là vient tout ce côté valeur et estime de soi. Ce qui fait que j'ai toujours cravaché, je me suis toujours donnée à 200% et je ne pensais pas mériter plus que ça. Ce qui fait que je me suis brûlée, vraiment. I burned out, littéralement. Et là, c'était une claque, c'était vraiment une claque. Et le sport m'a sauvée. Le sport m'a sauvé la vie, c'est un truc de dingue. Et quand j'ai réalisé ça, c'était en mode « mais les gens ne se rendent pas compte, il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils réalisent à quel point notre santé est importante et à quel point on la prend pour acquise aussi. » Et donc voilà, le burn-out a contribué à ça.
Et est-ce que le burn-out a aussi contribué à ce que tu fondes ta propre compagnie ?
Oui. Oui, parce que je ne supportais plus d'être sous la tutelle. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu es une femme, tu n'es pas vraiment juste sous la direction ou le management de quelqu'un. Tu es limite sous la tutelle de quelqu'un. Tu vois. Donc, la personne prend des décisions pour toi et suppose et comprend les choses à ta place. Et j'ai vécu ça toute mon enfance, toute mon adolescence. Et étant adulte, le fait d'avoir commencé une carrière, pour moi, c'était une porte qui s'ouvrait pour ma liberté, or que ça n'a pas été le cas. Et là, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre et je me suis dit, si je ne peux plus, en fait, travailler pour quelqu'un. Et aussi, j'ai envie de créer un environnement de travail où d'autres personnes travailleraient avec moi et elles se sentiraient bien, elles se sentiraient épanouies, et où je ne vais surtout pas reproduire ce que moi j'ai subi en entreprise.
Et d'abord, j'ai une question par rapport à qu'est-ce que ça veut dire qu'être holistic trainer et comment est-ce que tu accompagnes tes clients dans leur développement mental et physique. Peut-être si tu peux partager quelques techniques clés, quelques principes.
Holistic trainer, c'est quelque chose qui s'est mis en place avec le temps. Et ça vient vraiment de cette prise en charge holistique, donc du centre Ayana qu'on a ouvert ici à Touré Taxi. Et c'est cette prise en charge à 360 degrés. Donc l'être humain est beaucoup trop complexe pour juste faire du sport ou bien juste faire le mental ou bien juste voilà. C'est pas des trucs, des entités séparées, c'est une seule entité très complexe et tout est intrinsèquement lié. Et avec le temps, moi j'ai commencé en étant personal trainer et avec le temps en accompagnant mes clients. Et du coup, en apprenant tout ça, ben, j'ai commencé à accompagner mes clients dans le sport, mais je faisais aussi beaucoup de choses à côté. Donc, il y avait beaucoup de côté, l'aspect mental, mindset, alimentaire. Mais je ne pouvais pas porter toutes les casquettes. Et donc, à un moment donné, est née l'idée du centre Ayana, donc pluridisciplinaire, où je m'entoure, je fédère des autres professionnels de la santé pour remettre le centre, l'humain au centre et donc une prise en charge globale. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas être, si tu veux vraiment être un personal trainer de la manière dont moi je le fais en tout cas, si je voulais, enfin pour m'accomplir selon ma vision, il fallait que je fasse plus que juste du sport. Tu vois, donc quand la personne vient, mes clients, je connais leur vie, je connais leur stress, je connais leur trigger, je connais leur passé, je connais leur famille, enfin, je sais tout ce qui se passe dans leur vie parce que tout ça va impacter leur performance aussi. Et moi, le but, c'est quand ils viennent chez moi, ils ressortent d'ici, ils ressortent bien. Donc, le workout va être adapté en fonction aussi de leur état émotionnel et psychologique à ce moment-là, pas seulement leur état physique. Et c'est de là que d'où vient le terme holistique, parce que bah, j'utilise en fait toutes les cordes que j'ai rassemblées à mon arc au fil des ans pour donner un service du plus complet, du plus optimal. Donc... Et finalement, et grâce à une amie et une femme entrepreneur aussi de extraordinaire qui s'appelle Jessie O, qui elle fait du branding, c'est elle qui m'a poussée à vraiment mettre le mot dessus. Et elle m'a dit arrête de juste dire que tu es personal trainer parce que tu n'es pas juste personal trainer, tu es holistic trainer. Donc voilà, petit big up à elle.
Ou l'importance du personal branding aussi.
Absolument.
Notre vision des choses et comment on opère en fait dans l'écosystème entrepreneurial. À un moment, tu avais aussi évoqué pendant notre discussion auparavant de la résilience,
ouais,
comme un élément important dans ton parcours. Est-ce que tu dirais que les épreuves que tu avais traversées, tu dirais qu'elles ont contribué à forger cette résilience?
Ah oui, carrément. En fait, pour moi, on a deux types de personnes. Il y a les personnes qui subissent et qui vivent des épreuves et ils trouvent une raison, une excuse pour justement se lamenter et ne pas avancer. C'est très binaire. Hein. Je sais qu'il y a des zones grises hein, et je suis la première à les valider et à les comprendre. Mais ma vision de base, ça a toujours été comme ça. Donc, entre-temps, j'ai évolué. Mais c'est vraiment... deux gros types de personnes, donc se lamenter, se trouver des excuses, et puis tu as les autres personnes qui, ok, je suis tombée, ben, il va falloir que je me relève, et comment? Et ce raisonnement, pour moi, il part du fait que l'être humain, on est de façon instinctive comme ça, on est résilient de nature. C'est juste que cette résilience va être donc bridée ou pas. Parce que les enfants, quand ils naissent, quand ils commencent à marcher, combien de fois ils tombent avant de pouvoir faire leur premier pas? T'imagines si tout le monde y tombait une fois, deux, trois, et puis ils disent « Oh, c'est bon, j'en ai marre. » Nombre de personnes qui seraient en chaise roulante aujourd'hui. On serait tous en chaise roulante parce que voilà, non, c'est trop dur, alors j'abandonne. Et puis, t'as les personnes qui, voilà, qui continuent, qui se relèvent. Et l'humain de nature en est comme ça. Donc, pour moi, la vie, c'est ça. Donc, je suis tombée, retombée. Mais j'ai aussi appris à ne pas voir mes chutes comme des échecs. Et ça a été très dur à apprendre. Mais parce que pour moi c'était pas une option tout simplement d'arrêter, c'était pas une option, je sais pas comment t'expliquer, mais dans le fond de ma personne, j'ai toujours su que j'irais loin, que j'ai des choses à accomplir, pas spécialement en termes de notoriété ou quoi, parce que ça c'est pas vraiment mon but, Mais j'ai toujours ressenti ce feu à l'intérieur de moi en me disant, je vais changer les choses, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas juste traverser la vie comme ça. Et quand j'étais salariée, bah ça me tuait parce que je pense que c'est aussi pour ça que ça a été déclenché, c'est que peu importe ce que je faisais, c'était pas, ça ne m'animait pas. Et puis en plus de ça, déjà que je ne suis pas épanouie, que je ne fais pas un truc qui m'anime, et en plus de ça, tu me maltraites, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et ça m'a permis de me relever une énième fois. En fait, le mouvement, c'est la vie. Tu vois, ça, c'est vraiment ma phrase. Le mouvement, c'est la vie, que ce soit pour tes articulations, que ce soit pour ton esprit, que ce soit pour tout en général. L'eau, d'ailleurs, les cours d'eau qui stagnent, ben, ça devient dégueulasse, marécageux, tout ça. Et l'eau, les autres cours d'eau qui coulent et qui bougent, tu peux aller boire et c'est vraiment la vie. Et pour moi, la vie, c'est la même chose. Donc, les épreuves, c'est ça. C'est que tu tombes, tu te relèves. Si tu tombes, tu restes par terre, t'arrêtes de vivre, en fait, et tu subis ta vie. Et ça, ce n'est pas une option pour moi. Si tu n'as pas un minimum de résilience, tu ne peux pas être entrepreneur, et encore moins une femme entrepreneur. Parce que le nombre de personnes qui vont te dire non, le nombre de personnes qui vont remettre en question ton point de vue ou ton approche, le nombre de personnes qui vont te dire « Oh, tu sais, c'est nul ce que tu fais, tu réussiras jamais », tu entends ça beaucoup plus que tu n'entends « Ouais, c'est bien en fait ». Et tous les jours que Dieu fait, tu entends plus des gens qui te disent « Mais t'es dingue » ou bien tu le lis dans leur regard ou dans leur façon de se comporter, plus que tu n'as des encouragements. Hein.
Et est-ce que tu penses que ton ou tes identités plurielles, justement, elles ont un impact sur le fait d'entendre plus de non que de oui ou...
En fait, il faut garder à l'esprit que la majorité n'est pas toujours sur la bonne voie. Tu vois, on dit la majorité l'emporte, on fait tous les votes selon la majorité, mais la majorité n'est pas toujours juste. Donc, quand tu vas débarquer avec quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, tu sors du lot, ça dérange. Parce que les gens font beaucoup de projections, tu vois, parce qu'ils vont, ils te voient faire quelque chose qu'eux ne feraient pas en temps normal. Et donc, ça les perturbe. Donc, souvent, c'est des projections de ces personnes-là. Et puis, même toutes les personnes qui ont révolutionné le monde, qui ont sorti des choses. Pendant des années, on a cru que la Terre était plate. Hein, donc, le jour où on a dit que la Terre était ronde, il a été mis en procès, on a failli l'exécuter. Donc, j'ai envie de dire, c'est normal d'être confronté à des noms et à des avis négatifs. Mais c'est à toi d'y croire. Il faut vraiment que tu y croies et que tu saches pourquoi, d'où tu viens et pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça, c'est important, parce que c'est à ça que tu vas te rattacher et il n'y a que ça qui te permettra de tenir.
Et en tant que, justement, femme entrepreneur et une personne de couleur aussi, quel défi spécifique est-ce que tu as rencontré, justement, tout au long de ton parcours? Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment tu les as surmontés? Quelles sont les leçons que tu en as tirées pour, justement, pour d'autres femmes, enfin, peut-être le même background, mais qui aspirent à découvrir ou à exploiter leur plein potentiel entrepreneurial?
Bah, on peut partir déjà de la base, c'est que si on revient au tout départ de mon parcours de vie, si je devais écouter voilà, mon papa qui avait un esprit assez limité et a une vision qui lui est propre, c'est que je suis une femme, donc je devais être mariée à 15 ans, faire des gosses et ne pas avoir de carrière ni faire d'études. Donc voilà, déjà premièrement. Deuxièmement, au fil des années avec les études, franchement, j'ai déjà eu un prof pour qui j'ai fait une présentation quand je faisais mes études supérieures. Et donc j'ai sauvé la mise parce que dans le groupe, il y avait une personne qui était absente et donc j'ai un petit peu improvisé sa partie. Et donc ce prof, à la fin, il a applaudi, il était bluffé du résultat et tout. Et puis il me fait... donc on voit très bien qu'il a apprécié tout ce que j'ai fait, donc il voit jusque là tout va bien. Et à la fin, quand je partais, il fait je t'engagerai bien pour me servir le café. Voilà. Donc moi je l'ai regardé, je fais écoutez monsieur, si franchement je fais des études et que je suis en train de me battre tous les jours, c'est sûr, certainement pas pour vous servir le café. Par contre, ça ne me dérangerait pas qu'un jour, je vous engage pour que vous serviez le mien. Et je suis sortie. Donc, c'est des choses comme ça que mon collègue mec n'a pas eu, par exemple. Tu vois, c'est des petites choses comme ça au quotidien qui font que, en fait, tu peux être belle, mais pas trop intelligente. Ou tu peux être intelligente, mais on ne doit pas trop le savoir. Tu vois, on ne fait pas trop de bruit, ne dérange pas trop avec ton avis. Tu peux avoir des idées, mais tu nous les dis entre nous et c'est moi, le manager, qui vais venir le pitcher. C'est plein de petites choses comme ça. Donc ça, c'était dans le monde du travail. Et puis, dans le monde de l'entrepreneuriat, je peux te dire, pour être honnête, je n'ai été vraiment confrontée à cette difficulté d'être une femme que récemment, quand on a commencé à vouloir lever des fonds. Et là, on se rend compte qu'on est bloqué à 1%. D'ailleurs, il y avait le jour du Impact Summit, il y a eu tout un débat sur ça, c'est « Why are we stuck at 1% ?» On ne comprend toujours pas. Enfin, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs trucs, mais c'est ouf de se dire que, étant donné que tu es une femme, ben, on va pas te financer parce que juste t'es une femme. Donc en plus de ça, moi et mon associée, on est toutes les deux ici des femmes africaines. Moi je suis marocaine, elle est malgache. Donc voilà. Jusqu'ici, on a tout fait en fonds propres. Hein. On a tout fait en fonds propres parce que si on devait attendre qu'on nous finance, je pense qu'on serait encore en train d'attendre quoi. Ayana n'existerait pas.
Ben, on est bien content qu'Ayana existe.
Merci.
Et peut-être une question justement par rapport à ça. Est-ce que tu as un ou deux conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs justement sous-représentés qui cherchent à lancer leurs entreprises?
Mais je pense que si tu veux quelque chose de viable et quelque chose qui va t'animer, il faut que ça ait du sens pour toi. Il faut qu'il y ait un impact sur ton environnement, sur ta société. Parce qu'à la base, le travail, c'était des métiers. Ça veut dire que les gens avaient des métiers, des valeurs ajoutées. Ils avaient des rôles qu'ils jouaient dans la société dans laquelle ils vivaient. Et ça avait un sens. Donc, ils se levaient tous les matins parce qu'ils savaient que sans eux, le fer ne serait pas forgé, le lait ne serait pas distribué. Enfin, voilà, les gens ne mangeraient pas, etc. Et on a perdu ça avec le temps, parce que les jobs sont devenus très alimentaires et ça s'est perdu. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont dans la quête de l'entrepreneuriat, tu as soit ceux qui veulent juste devenir riches super vite, soit ceux qui veulent à nouveau retrouver un sens à leur vie. Et pour moi, si je dois te donner un conseil, c'est cherche quelque chose qui t'anime, qui te passionne et fais-en ton métier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. C'est bien de se remettre en question, mais il faut pas laisser les autres te faire douter de toi.
Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Un petit mot de la fin?
En tout cas, je voulais te remercier. Je pense que des initiatives comme les tiennes sont vraiment louables. Il en faut plus parce que on entend pas mal de personnes hein, et c'est super, mais c'est souvent les mêmes aussi qui reviennent. Et c'est cool de donner un petit peu cette plateforme à des personnes qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne connaît pas encore. Parce que je pense qu'on a chacun et chacune notre parcours et notre expérience fait de nous qu'on est unique et qu'on peut d'office apprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense que la meilleure école, c'est la vie, certes, mais c'est aussi par le partage. Je pense pas que... Et les gens aussi devraient être moins... mal à l'aise de partager leur déboire. Franchement, faut en rire premièrement et puis partager parce que ça permettra à d'autres personnes de ne pas, peut-être pas tomber dans le même piège. Donc merci à toi, merci beaucoup.
Merci pour tes efforts et je souhaite une très bonne continuation à Ayana
et à toi aussi ma belle. Merci.